Radio B, les bonnes ondes.
Accordons-nous. Émission pour la guitare sous toutes ses formes, dans toutes les musiques. Musique improvisée, musique du monde, classique, genre latino-américain, rock, électro. Émission diffusée en alternance le mercredi à 9h et le lundi à 13h. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour mon invité Antoine Stacchetti, guitariste de son état. Alors, c'était un hommage à une voix qui s'est éteinte, celle d'Astrud Gilberto, la chanteuse brésilienne, révélée par cette fameuse chanson « A Garota de Ipanema ». on va dire la fille d'Ipanema en français, ce sera plus simple, voilà. C'est assez stupéfiant comme elle a été révélée, c'est un peu en forçant le passage, alors que son mari, donc João Gilberto, jouait en concert avec Stan Getz à New York, et elle a chanté de manière totalement improvisée. Pour la petite histoire, j'ai lu ça, mais c'est quand même intéressant, pour ce tube planétaire, et devant une salle archi-comble du Carnegie Hall, elle a touché la somme de $120. Par contre, Stan Getz en a gagné beaucoup plus. Enfin, ça, c'est pour la petite histoire. Tout ça pour dire que pratiquement chaque émission doit faire place à un hommage à un musicien, une musicienne qui vient de décéder, puisque la dernière fois, c'était Tina Turner. Voilà, ça nous éloigne de notre sujet du jour, donc la venue d'un guitariste lyonnais, Antoine Stacchetti, au parcours multiple, qui a cette particularité qu'on rencontre, enfin que moi dans mon métier j'ai rencontré régulièrement, d'excellents musiciens, qui ne choisissent pas la carrière professionnelle pour des raisons diverses et variées. Il aura peut-être envie de nous en parler. Enfin, toujours est-il qu'Antoine Stacchetti est ce qu'on pouvait appeler un guitariste folk, en mettant plein de guillemets autour, qui a fait ses premières armes en France, mais qui allait parfaire son enseignement dans la prestigieuse ville de Los Angeles. Enfin, il va nous en parler. Antoine, bonjour.
Bonjour Jean-Claude, bonjour à tous.
Tout va bien ?
Ça va, oui,
voilà,
ça va.
Voilà, alors bon, je viens de faire un portrait en quelques secondes, alors qu'il en mériterait des heures. quand même, non. Est-ce que tu... Non, mais bon, ta vie et ton expérience, ta vie musicale a été quand même très variée. Alors, en gros, qu'est-ce qui fait qu'un jour t'es tombé dedans ?
Eh bien, je suis tombé dans le clairon, en fin de compte, parce que c'était l'harmonie municipale qui est... Voilà, mon père m'avait inscrit à l'harmonie municipale, ils avaient besoin de clairon, et puis voilà, et puis j'ai commencé avec ça, mais assez jeune, hein, vers une dizaine d'années. Et puis après, l'harmonie ayant besoin de trombone à coulisses, je me suis fadé le trombone à coulisses jusqu'au conservatoire, cours supérieur, et puis l'adolescence faisant son œuvre, j'ai basculé dans la guitare. Et la guitare c'était dans les années 60, début des années 70, plutôt avec tout ce qui était du domaine de la chanson, Brassens, Le Forestier, Graham White, etc. Donc tout l'aspect un peu folk qui arrivait. Et puis les années 60, 70 étant quand même une décennie assez importante au niveau de la création, de la mixité des styles, etc., est arrivé en France tout un courant anglais, blues, musique celtique, folk baroque, dont on va certainement en parler après. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler, à m'inscrire dans la guitare comme mon principal instrument. Voilà, en gros, vraiment, dans les grandes lignes. Donc, c'est vrai que je pars d'une culture plutôt classique. Hein, et puis, j'ai basculé un peu dans autre chose après.
Mais comment on se débrouillait à cette époque-là, que j'ai quand même bien connu ? Comment on se débrouillait pour jouer, pour faire du picking, par exemple ?
Eh ben, oui, parce qu'effectivement, ce qui m'a amené à développer les techniques à base de picking, ça a été les disques de Graham White, en fin de compte, Le Forestier aussi, qui commençait avec le Douardin à faire des choses quand même un peu complexes et sophistiquées. Et après tout ça, c'était une période vraiment de création, où il y avait vraiment une multiculture. Les disques arrivaient des États-Unis. On commençait à voir comment les guitaristes, notamment de ragtime, de blues, et tout ça, on se l'est approprié, quoi. Et en fin de compte, on se débrouillait avec nos vinyles, avec le début des magnétos à bande, et on repiquait à l'oreille les morceaux. Donc nos vinyles passaient... On a usé des vinyles à positionner la pointe à un endroit pour écrire les morceaux. C'était en ralentissant un peu la platine. Enfin, c'était d'un archaïsme absolu, mais n'empêche que ça développait beaucoup l'oreille, quoi.
Ça a peut-être inspiré les DJ longtemps après.
Ah oui, sûrement.
Moi, par contre, il y a quelque chose, on l'a déjà abordé en privé, on va dire, il y a quelque chose qui me surprend tout le temps, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a pu s'intéresser, donc courant des années 60, à des musiques qui ont été créées une petite centaine d'années plus tôt. C'est un peu comme si maintenant, la jeune génération se mettait à faire du Musette à Donf, quoi.
Ben, on en fait encore du Musette, mais c'est là, il faudrait faire un peu de musicologie, de sociologie, de politique, etc. Parce que c'est en fin de compte... Moi, je crois beaucoup que dans les années 60-70, ça a été vraiment une période assez exceptionnelle au niveau de la mixité, de la réunion de plusieurs styles et de découverte de plusieurs univers musicaux, mais qui remonte à très très loin, parce qu'il faut remonter en fin de compte au phénomène d'immigration des Européens aux États-Unis. Ils ont emporté leur musique dans leur bagage, dans leur valise. Et il y a eu un phénomène de retour après. Et dans les années 60, ce qui est très caractéristique, c'est que les Anglais, notamment, par les grands groupes ou même des gens qui écoutaient de la musique américaine, du blues, etc., ont revalorisé et se sont réappropriés la musique américaine. Et de ce fait... Il y a eu un afflux de musiciens américains qui sont venus en Europe, et tout ça c'est un peu mélangé, et en fin de compte toutes les musiques ont été influencées, le blues, le rock, etc. Et concernant la musique folk, moi je dirais qu'il y a eu vraiment un revival folk à cette époque-là, notamment en Angleterre. Il y a eu un phénomène très intéressant de la BBC qui a fait des émissions sur la musique traditionnelle. Et en même temps, il y avait vraiment une émergence de musiciens qui jouaient notamment dans les Hot Nannies, qui est un phénomène assez intéressant, puisque c'était des scènes qui étaient ouvertes, principalement folk, mais où tout le monde pouvait venir avec son instrument, jouer, etc. Et tout ça s'appuyant quand même... sur un phénomène politique de contre-culture. Parce que là, vraiment, c'était une autre façon de voir la musique, de faire de la musique, le rapport avec le professionnalisme de l'industrie, etc. Voilà. De l'industrie phonographique et discographique.
D'accord. Alors, je vais passer maintenant deux morceaux, dont un... d'un certain David Graham,
oui,
qui t'a fortement influencé. Tu nous en parleras après. Le titre d'après, d'un musicien un peu moins connu, s'appelle Le Juge. Voilà, donc on était en train d'écouter David Graham et oui. Antoine va nous en parler.
Alors, David Graham, dans ce qu'on appelle, moi, ce qui m'a beaucoup influencé, c'est le folk blues. Il y a plusieurs appellations. On dit soit le folk baroque, soit le folk blues, soit le blues baroque. Et David Graham, ça a été le grand inventeur. Ça a été celui qui a émergé dans les premières années 60. Hein. Là, on l'entendait avec Alexis Corner, qui était son acolyte. C'est vraiment sur un disque 3-4 AD et ça a été vraiment le premier album où on voit une marque absolue des caractéristiques du folk baroque. C'était un personnage absolument fantasque qui a pu réunir des styles très différents et qui a développé le style de guitare d'une façon extrêmement particulière en faisant en mélangeant à la fois des styles et puis un jeu de guitare très particulier avec des basses, avec des aigus, avec des accords, etc. qui fait que ça fait un produit tout à fait cohérent et qui se passe quasiment d'autres instruments, quoi. C'est vraiment une particularité. Et avec beaucoup des arrangements en jazz, en celtique, en musique orientale, enfin, tout ce qui fait les caractéristiques du folk baroque, cette réunion, cette fusion de plusieurs styles.
Moi, je pense que ce serait une bonne chose que maintenant... Tu nous joues quelque chose, peut-être
bon, alors, ouais, oui, je veux bien, oui.
Voilà, tu enchaînes deux morceaux, là.
Non, je vais voir.
Tu vas voir, hein.
Je vais voir, je vais laisser les doigts se faufiler.
D'accord, on t'écoute.
Thank you.
Bravo Antoine, merci. Ah ben alors là, c'est même plus que du revival. Là. Lui, le grand Jean-Sébastien, ça restera une source pour tous les musiciens pendant encore quelques siècles.
Oui, oui, mais la musique folk baroque se caractérise par l'étendue de ces styles musicaux. Ça va de la musique médiévale, musique baroque, donc Bach, Couperin, etc., Dolande, et puis aussi tout la musique celtique, notamment la musique irlandaise, et avec l'apport du blues acoustique, beaucoup, beaucoup de blues acoustique, et du jazz, évidemment, du jazz.
Ouais. Très bien.
Et moi,
je pense que tu es bien lancé pour nous jouer autre chose, là. Bon, vas-y, je te laisse terminer quand même ce que tu voulais
non,
dire.
Non. Je pourrais peut-être. Alors, par contre, il faudrait. Là, je suis dans un. Alors, ce qui caractérise toute la musique folk aussi, la folk baroque, c'est les accords qu'on dit ouverts. Alors, accord ouvert, ça ne veut pas dire grand-chose. En anglais, on dit open tuning. Mais on a l'accord standard, mi, la, ré, sol, si, mi. Et puis, quand on joue en folk baroque, on joue beaucoup sur les résonances, comme vous avez pu constater, sur les. On fait résonner des accords. Vous voyez, cet accord-là qui est très très particulier parce qu'on a une basse en do, il donne une couleur. Et de cette couleur, on va puiser la couleur pour créer quelque chose autour. C'est une sorte de voyage. La musique, c'est du voyage. Donc, on fait une sorte de carte postale, un chemin qu'on suit. Et tout le morceau, notamment toute l'introduction que j'ai créée avant le bac, on part de cette couleur pour faire tout simplement un morceau, quoi. Alors, si jamais je joue autre chose.
Ouais, juste une petite remarque. On te félicite pour ton jeu, bien sûr. On peut aussi féliciter ton luthier parce que tu as quand même un instrument qui sonne.
C'est vrai ? Bon, tant mieux. Oui, alors ça, c'est une guitare très spéciale. Enfin, c'est pas une guitare spéciale, hein. J'avais acheté une Loudon, cette guitare, c'est une Loudon. Dans les premières Loudon, c'était un luthier irlandais qui habite à Belfast et qui a fait, qui a continué sa carrière, qui a eu beaucoup beaucoup de succès, etc. Et puis cette guitare qui était absolument magnifique, j'ai dû la vendre pour financer mon départ, mes études aux États-Unis. Et au moment de ma retraite, ça a été le moment où j'ai repris la guitare après 30 ans, parce que j'ai eu une interruption pendant 30 ans, et ça fait 3-4 ans que je me suis remis à cet instrument, et j'avais envie de me payer un nouvel instrument. Alors j'ai cherché à peu près de partout, je pense en Europe, aux États-Unis, etc. J'ai même été en Irlande, voir d'autres luthiers. Puis enfin, quand je suis tombé sur cette guitare, que j'ai achetée, quelque chose assez incroyable, par Internet, sur un site qui s'appelle Fellowship, qui est en Hollande, et ils m'ont envoyé ça. Et j'étais pas trop, trop chaud pour la garder. J'ai pris le risque de la garder et c'est une guitare absolument magnifique. C'est un piano à queue. Voilà, tout simplement.
Le Steinway de la guitare. Voilà. Alors on t'écoute.
Alors, je vais jouer peut-être un morceau. Un morceau que j'ai composé qui s'appelle Irish Tune, qui est dans un accord spécifique qui s'appelle le Dadgad.
Bravo. Alors, les contraintes horaires font qu'on va devoir se quitter prochaine très vite. Je vais te demander de conclure en musique, c'est peut-être mieux qu'en parole. Et puis, bonne suite quand même, parce que je sais que tu enregistres bientôt. J'espère qu'on te verra sur les scènes, pourquoi pas les scènes locales. Après tout, à Bourg, il y a des endroits où on peut écouter encore de la musique vivante.
Ouais.
Voilà, sinon je connais un festival basé à Villeurbanne, oui, où tu devrais candidater. Voilà, Antoine, merci, à bientôt. Et tu vas terminer avec quel morceau?
Je ne sais pas, on a encore combien de temps?
On va dire 3-4 minutes, pas plus.
Bon, alors tu peux le chanter, tu pourras le chanter.
Je te ferai signe quand ça approche.
Je vais finir par une gigue, tiens.
Très bien.
Ou alors, je sais pas. Je vais faire un extrait. Ouais, je voulais juste te dire que c'est vrai que je vais commencer à enregistrer, que ça, c'est un projet que je mène depuis 3-4 ans, depuis que j'ai repris la guitare. C'est vrai que ça a été ces 3-4 ans-là, ça a été un long parcours intérieur, à la fois de réappropriation des morceaux, de recomposition, etc. C'est vraiment génial de reprendre une passion et que surtout que ça marche. Enfin, moi, j'ai vraiment toujours un plaisir de dingue de jouer. Et puis voilà, donc je vais enregistrer pour faire... J'ai 25 titres à faire. Je ne sais pas si ça va sortir cette année en un CD ou deux CD. On va voir. Alors, c'est un petit hommage à Chick Corea. Ça tombe dans les temps.